There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Never would you talk dirty.
Napoléon. Waterloo, morne plaine. Et c'est parce que ça parlait de Napoléon que je suis allé voir, surtout pas à cause de Ridley Scott, dont j'ai rien à cirer depuis 25 ans. Mais j'avoue quand même, quand je l'ai vu dire aux historiens, non mais les mecs... Il y a 400 bouquins de Napoléon et vous croyez que c'est pas rebidouillé au fil des ans, d'où vous en savez, vous? Vraiment, ce côté de dire, tu vois, l'histoire n'est pas une vérité figée, ce qui est quand même une évidence pour quand t'as étudié un petit peu l'histoire, tu vois. Et je trouvais ça marrant, quoi, qu'il envoie chier là-dessus. Alors ça, c'est la deuxième raison qui m'a donné envie d'aller le voir. Et la troisième, c'est puis il s'est fait chier dessus. Alors moi, quand tout le monde chie sur un truc, j'ai tendance à me dire, oh, il y a peut-être un truc intéressant. Alors non. C'est bon ?
C'est bon. Bring it on.
Don't fuck with me.
Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, je reviens un peu après la bataille, c'est le cas de le dire, sur le Napoléon de Ridley Scott. Napoléon et Ridley Scott, deux noms qui collaient l'un à l'autre, me faisaient déjà beaucoup rire et qui auraient dû faire pouffer passeurs et critiques apparemment déçus, quelle surprise, s'ils n'étaient de toute évidence des passe-plats à la mémoire défaillante. Pourtant, c'est pas comme si depuis 20 piges, le père Ridley ne nous balançait pas des boursouflures névrotiques qui sont au 7e art ce qu'un furoncle est au trou de balle. Sauf qu'un Alzheimer collectif fait que depuis Gladiator, pour ne pas dire Blade Runner parce que je suis gentil, Ridley Scott siège toujours sur un piédestal fantasmatique et bénéficie d'une mansuétude à la mesure de l'impact culturel de ses trois premiers films. Alien et Blade Runner, devenus piliers majeurs de l'imaginaire contemporain, qui excusent, phagocytent et surtout éclipsent le reste d'une filmographie de plus en plus arrogante et aigrie, où le cinéma s'est vu sacrifié sur l'autel d'une mégalomanie misanthrope. Les laudateurs de Scott, ou tout simplement ceux qui recyclent les enfilages de perles d'une année sur l'autre, comme des perroquets, ont d'ailleurs toujours été emmerdés devant l'évidence. Mais la puissance du déni est telle qu'on lui trouve toujours l'excuse du spectaculaire, de l'ambition et de la belle image comme bouée de sauvetage à un prêt-à-penser qui, par définition, interdit de désacraliser un réalisateur qui s'est fait pourtant le champion de la désacralisation des mythes que les mêmes défendent. Mais bon, aujourd'hui, on n'en est plus à un paradoxe près, d'autant que les lauriers qu'on lui tresse sur le spectaculaire en CGI plan fixe et la belle image à la sauce lumière blafarde et couleurs délavées, c'est-à-dire dans les rails de tout ce qui se fait depuis 20 piges, sont devenus eux aussi du bidon de lessive qu'on brandit quand on ne sait plus comment camoufler la cata. Mais bon, tout ça, je l'ai déjà dit, et explicité longuement dans de nombreuses émissions passées. Alors à quoi bon tirer une nouvelle fois sur l'ambulance, me direz-vous, surtout quand le film se fait même déchirer par ceux qui, bien que vantant son spectaculaire, on ne se refait pas, n'arrivent plus à lui pardonner sa vacuité thématique. Tout simplement parce que les tirs de canon sur le film se trompent de cible et qu'il est bon de rappeler que le problème majeur de ce blockbuster à 200 patates est davantage cinématographique que lié à sa vision de l'histoire, aussi orientée soit-elle.
I must warn you, I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness.
I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head.
You want to be great? You are nothing without me. Say it.
Je ne vais donc pas appréhender ce Napoléon à l'aune de son rapport à l'histoire. D'abord parce que la majorité des critiques sur le film se sont attelées à cette tâche absurde, s'égosillant devant ses aberrations factuelles, ses partis pris idéologiques, comme ses lacunes toutes passibles de haute trahison selon eux, surtout quand on prétend s'atteler à une figure centrale de l'histoire de France comme de son roman national. Ensuite, parce que Scott avoue sans embâche qu'ils s'en battaient les glaouis, renvoyant historiens et politicards aux limites de leur propre interprétation de l'histoire, en un crachat moins subversif qu'égotique, mais qui n'est cependant pas dénué de fondement. Ce qui, pour être honnête, m'a fait marrer et m'a incité à voir ce film dont je n'avais a priori rien à cirer, à cause de Ridley, bien sûr. Pour autant, la liberté d'un artiste à réinterpréter l'histoire comme il veut ne l'autorise pas à le faire n'importe comment, au mépris de son propre moyen d'expression. Et c'est là que le bât blesse. On sait que le biopic est un genre casse-gueule, dont synthétiser une vie, souvent dense et complexe, produit des récits aux ellipses frustrantes, à la déférence castratrice, au didactisme scolaire. À de rares exceptions près, ce qui fait le cœur du cinéma, mise en scène, mécanique narrative, émotion, symbolisme, se perd dans la lourdeur de la simple illustration craintive. On sait aussi que le biopic est un piège dans lequel s'engouffrent joyeusement les vérités contradictoires de chacun. Le seul intérêt qu'il porte n'est donc pas d'être fidèle à des vérités que l'on choisit, ni même d'apporter sa propre vérité, ce que tente Scott, mais d'interroger plutôt les raisons de l'importance du sujet même dans le temps de l'histoire, ce que Scott ne fait bien évidemment jamais. Je n'attends pas d'un film sur Napoléon qu'il colle aux faits historiques. Je n'attends pas qu'il soit une hagiographie digne de roman national ou, dans le cas de celui-ci, une désacralisation bourrine de mythes aujourd'hui contestés, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça me fait marrer quand des mecs ils disent « faut pas confondre fiction et documentaire », mais t'as envie de dire, ça n'a même rien à voir. Un documentaire est orienté, il y a de la mise en scène dans un documentaire, donc ce n'est pas non plus la réalité, tu vois ce que je veux dire. Donc cette notion de vérité, de fiction, elle est un peu faiblarde. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir comment... à travers ton moyen d'expression et l'outil du cinéma, tu vas réinterpréter quelque chose pour en donner un sens. C'est ça, donc moi je m'en fous. En fait, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Tu vas pas foutre Napoléon sur un tigre qui va aller... tu vas faire n'importe quoi. Mais tu as quand même une énorme liberté, pour moi, à partir du moment où, même si tu n'es pas juste dans les vérités historiques, ou que tu les réadaptes, ou que tu te dis bah, « je fais ce raccourci qui n'existe pas, mais il sert le sens profond de ce qui se passait à ce moment-là », il n'y a pas de problème. Moi, j'attends que ça, d'un biopic ou d'un film historique, j'attends pas qu'il soit fidèle. Et puis fidèle à quoi ? Fidèle au mec qui a fantasmé le roman national, fidèle à l'historien qui dit « oui, mais il y a des nuances, tout ce que tu veux ». Bon, moi, je m'en fous à partir du moment où la vision qu'on me propose, contestable, iconoclaste, que j'aime ou que j'aime pas, elle est cohérente et elle produit un sens qui est une autre réflexion sur la stature du sujet. C'est tout ce qui est important, en fait. Que Scott rabaisse Napoléon à sa vile condition humaine, jusqu'à flirter avec le burlesque, voire le ridicule, pourquoi pas, tant que ce parti pris éclaire à sa manière ce pourquoi le sujet mérite en soi un biopic. Ce que j'attends, c'est une profession de foi, un point de vue, une moelle épinière consistante qui, un, justifie l'existence du film, et deux, porte en conséquence une nouvelle lumière sur les raisons pour lesquelles le personnage choisi a acquis sa place dans l'histoire. Et bien sûr, Scott est incapable de répondre à ces deux exigences. Il fait croire que la justification de son film tiendrait dans une démythification de Napoléon à laquelle il prend visiblement plaisir. Soit, admettons qu'on adhère, que c'est un connard infantile, névrosé, pleutre par instant et badass à d'autres, comme il le dévoile à la « vas-y, je te pousse ». Admettons, comme Ridley, qu'on s'en batte les couilles du génie militaire de Napoléon, de ses talents politiques, des enjeux géostratégiques auxquels il fut confronté pour s'intéresser à son histoire intime avec Joséphine. C'est ce que j'ai fait au départ, acceptant la proposition, mais dans l'attente, bien sûr, qu'elle m'amène à une nouvelle réflexion, ne serait-ce que psychologique, quant au rôle forcément fondamental, puisqu'on s'y intéresse, que cet amour contrarié a joué dans la vie d'un homme qui a soumis la majorité de l'Europe. Mais là, que dalle ! Walou, comme si le fil conducteur du film n'avait aucun impact sur le reste. Pire, cette relation elle-même est cryptique et lacunaire. Tout y est contradictoire, sans queue ni tête. Chaque élément qu'elle prétend traiter, amour, ambition, drame fondateur et j'en passe, est édicté par les personnages sans jamais être montré et contredit une heure plus tard par d'autres personnages. Rien, ni dans cette relation, ni dans le reste du film, ne permet d'éclairer quoi que ce soit, même de façon iconoclaste, sur le personnage, ses motivations, ses ambitions, ses coups de génie et ses échecs. Rien, que du vent, une coquille vide. Cette relation mise en avant comme terreau d'une profession de foi ne produit aucun sens, si ce n'est le désir fantasmé de Ridley de nous faire croire que Napoléon n'aurait rien été sans elle. Sauf qu'à part un dialogue sorti de nulle part, rien ne l'explique, ni ne le démontre. Et tout dans le film est à l'avenant, sans aucune colonne vertébrale, succession de jugements personnels ou de vérités historiques balancées en vrac, n'importe comment, sans qu'aucun ne soit amené, explicité et encore moins légitimé. Pire encore, son désir sous-jacent de désacralisation est progressivement jeté aux chiottes face à ce qui devient un renoncement de Scott lui-même, puisque tout le reste, politique, bataille, enjeux historiques, n'est qu'une illustration sans substance des incontournables top tendances de la carrière de Napoléon façon compile Wikipédia Junior pour Teletubbies. À savoir le sacre, l'exil, Austerlitz, Waterloo, qui s'enchaînent sans produire le moindre intérêt, autre que « Ah, il est joli le CGI là !» Là, je fais une petite pause, parce que là, je donne des exemples quand même. Parce que c'est toujours très difficile. Et ça renvoie aussi à la façon dont on perçoit la fiction aujourd'hui. Nous, on a été des cinéphiles depuis 30 ans, on a vu l'évolution de la façon de raconter des histoires. Et bon, puis avoir de nouvelles formes, puis avoir de nouveaux moyens de consommation. C'est sûr que l'arrivée des TikTok, des trucs, tout ça font qu'il y a moins de patience. Et il est symptomatique de ça, ce qui est terrible pour un mec qui savait raconter des histoires. C'est quand même, tu vois, que tu regardes, ne serait-ce que ces trois premiers films, et puis même, je caricature en disant il a fait que de la merde depuis Blade Runner. Je trouve sympathique de regarder Gladiator. C'est comme si aujourd'hui se soumettait à ce qui est devenu la norme, c'est cette incapacité de construire un récit. Donc ça, c'est toujours extrêmement difficile à expliquer à des gens qui vont te dire « Ah non, mais moi, je m'en fous de la vérité historique, c'est sympa, j'ai vu... » Bon, donc tu te poses la question de qu'est-ce que tu perçois. En fait, tu perçois une espèce d'enchaîne. Tu sais, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films aujourd'hui. Tu peux avoir une idée sympa, tu peux avoir un dialogue sympa, tu peux avoir une scène d'action sympa suivie par un truc plus intime, mais avec une approche. Les gens n'ont plus rien à foutre du lien, en fait. C'est tout simplement ça, d'une construction dramaturgique qui fait qu'un élément que tu poses, tu le réexploites derrière. Ou alors, il devrait théoriquement avoir un sens derrière et t'amener à quelque chose. Ça va de la construction d'un arc narratif des personnages, mais à tout plein d'informations qui vont te permettre d'appréhender un propos et de savoir quel est le but, quelle est la fonction, qu'est-ce que tu veux raconter, au final. Moi, le plus grand drame d'un film de Napoléon, que sur Napoléon comme ça, mais des autres films de Ridley Scott, c'est que tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Tu me parles de Napoléon et Joséphine. Donc, ça veut dire que pour toi, cette relation est la clé de compréhension de Napoléon. Ok, c'est la clé de compréhension. En quoi c'est la clé de compréhension ? Jamais ! C'est génial ! Ils se rencontrent dans une scène que j'aime bien, où ils ne se parlent pas, ils se regardent. Une deuxième scène où ils ne se parlent pas, ils se regardent. Troisième scène, je suis fou, amoureux de toi. Et là, t'as l'impression que c'est un amour fou partagé. Et là, tu dis, mais d'où ? En fait, tu me dis un truc que tu ne m'as jamais montré. C'est comme ce que je dis quand la nana, elle est à côté de lui. Ils sont sur un canapé et elle lui dit, tu ne serais rien sans moi. Et là, je fais, ok, d'où ? Tu me l'as expliqué, tu me l'as montré, tu me l'as fait comprendre ? Que dalle. Moi, elle lui dit, tu n'as pas d'ambition. Un autre personnage derrière, ah, son ambition était là. Et tu dis, mais... Moi, je suis pas là à dire « faut défendre Napoléon, pas Napoléon ». Mais si tu fais une charge de Napoléon, tu expliques en quoi ta vision d'un Napoléon très négative, infantile, pleutre, tout ce que tu veux, névrotique, tout ce que tu veux, en quoi, là-dedans, ça a donné l'impulsion qui a fait que ce mec a fait tout ce qu'il a fait. Rien. Et la deuxième partie du film, il se baise, c'est ce que j'ai... Il se baise. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est un connard. Mais j'ai aucun moyen de justifier pourquoi ma vision de ce connard a fait de lui ce qu'il est resté dans l'histoire. C'est-à-dire, grosso modo, je ne peux pas. Par ma vision, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas une raison à ce qu'il a fait. Et c'est ouf. Donc du coup, toute la deuxième partie du film, ça devient du Wikipédia. Mais attention, c'est du Wikipédia plus con que du Wikipédia. C'est-à-dire que je te mets une bataille, je te mets une scène politique, je te mets une bataille, et comme elle est vidée de tout ton jeu géostratégique, politique, psychologique, tout à rien. C'est juste que je me disais, bon, mais maintenant, on fait 5 minutes sur Austerlitz, puis là, on fait 5 minutes sur ça, puis on fait 5 minutes sur Waterloo. Waterloo, catastrophe, la scène. La pire scène du film, c'est Waterloo. Je dis, non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Comme je te le disais, Waterloo, dans l'imaginaire commun, Waterloo, morne pleine, des milliers de morts, tu te dis, c'est le plus gros échec, c'est ce qui a valu la fin de Napoléon. Déjà, il ne le montre pas. Déjà, il arrête la scène en plein milieu. Sa justification de l'échec, c'est un minable truc stratégique qu'il n'a même pas amené. Et juste après, c'est le décompte des morts. Et là, tu dis, non, l'hypocrisie, mec, elle atteint un stade. Je n'ai même plus d'arguments. En réalité, ce Napoléon est un piège dans lequel Scott s'est enfermé lui-même. Sa volonté de foutre des bourre-pifs à Bonaparte lui fait construire un personnage qui jamais n'a la possibilité de justifier pourquoi et comment il devint un militaire aguerri, un politique roublard, un empereur français, un des plus grands conquérants de l'histoire et surtout une figure qui traverse les âges, ce qui en soi est presque un tour de force en termes de manipulation grossière. À force de se foutre totalement de tout ce que pouvait être Napoléon, pour ne garder que sa haine très contemporaine d'un personnage dont le décompte final des morts justifierait à lui seul sa démarche, Ridley s'autofuck et s'avère dans l'incapacité fondamentale de mener à bien un projet cohérent. Parce que certains faits sont têtus, qu'ils ont une raison d'être qu'il ne comprend pas ou qu'il ne veut pas voir, et parce qu'il force une vision actuelle d'un personnage qui, tel que présenté, n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait. Ce qui me fait penser clairement à Kingdom of Heaven, mais on en parlera un autre jour. Bref, une narration en roue libre, sans arc cohérent, sans structure dramaturgique, donc sans résonance symbolique, qui ne déroule qu'une collection de vignettes visuellement dispendieuses, mais désormais taylorisées et définitivement vides du moindre sens. Mais il y a une autre raison à cet air non cinématographique, si je puis me permettre, qui justifie en soi l'existence du projet, mais qui n'a rien à voir avec un quelconque désir de Scott d'explorer réellement le personnage de Napoléon. Une raison sinon existentielle, en tout cas névrotique, mais que j'évoquerai en off parce que je suis déjà beaucoup trop long. Donc pour en arriver à ce que je disais à la fin, l'autre raison existentielle que j'allais déjà évoquer dans d'autres trucs, c'est que je pense, et ça... Pour moi, c'est corroboré par sa misanthropie et par son aigreur. Tu te dis, mais comment ? Quand on arrive à 80 balais, qu'on a eu la carrière qu'on veut, et avec les drames de la vie, la mort de son frère, et sans doute d'autres choses qu'on ne connaît pas, tu peux avoir des regrets, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des souffrances, tu peux avoir ce que... Mais haïr l'humanité à ce point-là, et faire ce qu'il fait au niveau cinématographique, ça en dit long. Ridley Scott veut laisser une trace dans l'histoire. Il veut laisser une trace dans l'histoire, à la mesure de ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas, considèrent comme des artistes qui ont laissé une place dans l'histoire. Alors qu'il a lui-même déjà laissé sa place dans l'histoire. C'est là où c'est schizophrène. C'est-à-dire qu'on pourra dire ce qu'on veut sur Ridley Scott et toute sa carrière, le mec, il a fait Alien et Blade Runner. C'est des films, c'est des classiques. Il a gagné sa place dans l'histoire du cinéma, largement. Alors, soit il veut... C'est pas le mec qui marche dans les pas de son père, hein. C'est je vais te tuer, mais je vais pas tuer mon père. Je vais l'empaler par l'anus et je vais lui faire ressortir par la bouche, parce que c'est ça qu'il fait. Et au mépris de tout propos, c'est-à-dire c'est la destruction pour la destruction. Et aujourd'hui, dans un monde totalement technocratique dans lequel nous sommes, la meilleure destruction que tu puisses avoir, c'est la rationalisation. C'est donc faire disparaître tout ce qui est source de lumière et d'espoir, c'est-à-dire tout mythe, tout imaginaire, tout élément fédérateur. C'est, on te ramène à la basse médiocrité d'une rationalisation intempestive qui fait que tu ne crois plus en rien. Et cet esprit de destruction, ben, ça l'habite depuis un moment. Gladiator, je veux niquer Spartacus, je veux que mon truc soit plus grand dans l'histoire que Spartacus. Exodus, donc c'est les 10 commandements. Et j'ai même envie de te dire, il fait ça. Alors là, Napoléon, pas besoin de le dire qu'entre Abel Gance, Bondarchuk et Kubrick lui-même, qui a quand même bossé 3 ans sur le film ou 4 ans, qui n'a jamais pu le faire, tu vois la volonté. La volonté, elle n'est pas de parler de Napoléon, la volonté, elle n'est pas de parler des gladiateurs, la volonté, elle n'est pas du tout là-dedans. La volonté, c'est détruire pour exister, détruire pour se mettre en valeur par l'effacement. Et c'est marrant de voir comment petit à petit, sa haine du monde, sa haine de l'humanité, sa misanthropie, sa mégalomanie, c'est tout ça, ses névroses, ont pris le pas au point de lui faire perdre tout ce qui faisait la force de son cinéma avant, et donc une intelligence de metteur en scène, quoi. C'est un truc... Et je pense qu'elle est là. Il est là, le vrai problème. Sur les trucs positifs, on l'a dit un petit peu, Le film n'est pas si chiant que ça pendant sa première moitié. Moi, j'ai trouvé, il y a des gens qui sont emmerdés grave dans le film, mais moi, je ne me suis pas tant emmerdé que ça. Je trouvais même, allez, je vais atténuer ce que... Je trouvais même que dans le début du film, il y avait un peu de profondeur dans la mise en scène et pas simplement cet aplat qui caractérisait le dernier duel où tu as l'impression d'avoir vraiment juste que des vignettes gros plan, plan l'archigiaï, gros plan l'archigiaï, quoi, tu vois. Là, il y a un petit peu de travelling, un petit peu de tentative à certains moments de faire des trucs. Et puis, moi, je n'ai pas trouvé Joaquin Phoenix hyper gênant. Alors, il alterne entre le sérieux, le charismatique et le bouffon total, quoi. Non, moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a eu des films où il s'est fait déchirer. Mais là, tu tacles Napoléon. Donc, du coup... L'indulgence, elle est moindre que sur un film lambda, parce que là, les mecs, ils attendent un truc, tu vois, t'attends un truc, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais là, ça passe plus. Moi, j'ai eu l'impression, enfin, tu vois, j'ai eu l'impression, parce que j'ai vu de tout, hein. J'ai vu les mecs qui chiaient sur le film parce que, pour les vérités historiques, mais j'ai vu aussi des bonnes critiques de gens qui pointaient du doigt, clairement aussi, ces errements structurels, narratifs, qui disaient, mais là, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, voilà. C'était bien. Oh, ça donne envie. Donc, vous avez deux options. Si vous êtes en train d'hésiter pour aller voir Napoléon, vous dites « j'aimerais bien voir un nouveau Ridley Scott ». Je dis « non, vous avez deux choses. Ou vous regardez Mars Express, qui est le seul truc un tant soit peu sympathique qui est sorti au cinéma en ce moment, et que français, film d'animation, qui est quand même couillu et qui est beaucoup moins con qu'il en a l'air en plus dans son propos, qui n'est pas juste une espèce de délire geek, hein, il y a un peu plus de sens, ou alors vous regardez en boucle la bande-annonce de Furiosa pendant une heure et demie. Et je pense que je prendrai plus de plaisir à voir pendant 1h30 en boucle la bande-annonce de Mad Max que de revoir Napoléon. Voilà, je pense que ça dit les choses. Voilà, sur ce, cette minute Yannick Dan est terminée. Je pense que... Alors, donc, moi maintenant, j'essaye de me dire, bon, il faudrait quand même que je fasse un bon film de temps en temps quand je tombe sur un et tout ce que tu veux, ce qui n'est pas facile forcément à trouver par rapport à nos délires à nous. Donc finalement, je vais faire le prochain Zack Snyder, ce qui risque d'être en tirage sur l'ambulance, là aussi. En plus, je vais me faire massacrer par tous ceux qui considèrent que c'est un grand réalisateur et ça me fait beaucoup rire. Après, je ne m'interdis pas de ne pas le faire. Hein. Si je passe le pire moment de ma vie en regardant Rebel Moon... Je l'aurais peut-être pas envie. Mais on verra. Un des gros problèmes que risque d'avoir Rebel Moon sont les mêmes que pour d'autres raisons, mais ça va être les mêmes problèmes que Napoléon. Mais bon, ne faut jamais préjuger. T'es jamais à l'abri d'une fulgurance, tu vois. Et mais voilà. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine fois. Je sais pas quand, parce que je ne comprends rien du tout au planning. Hein, donc tu me le réexpliqueras un autre jour. Et voilà, sur ce, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.